Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, nous irons voir dans l'œil des punaises. Nous fêterons la journée mondiale des sciences et puis nous découvrirons les mémoires spatiales d'un journaliste. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, l'origine des contaminations au mercure dans nos cheveux. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, nouvelle méthode de diagnostic et de traçage du mercure extrêmement précise pourrait faciliter la vie des toxicologues et des patients inquiets. On cherche des molécules dans des cheveux dans un instant à la une de la science.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparé par Mahmoud Mebarek avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc dans notre club, les punaises dentelières, les 350 ans de l'Académie des sciences et les mémoires spatiales d'un journaliste. Et je salue mes invités, Catherine Bréchignac, Aline Richard, Michel Chevalet, Pascal Griset et Romain Garrouse. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour. Catherine Bréchignac et Pascal Griset, mardi prochain, c'est donc la journée mondiale des sciences dans le cadre du 350e anniversaire de l'Académie des sciences. 70 académies étrangères seront réunies au Louvre pour une réflexion commune sur la science. C'est la première fois qu'autant d'académiciens se retrouve, Catherine Bréchignac.
Oui, tout à fait. Et c'est un honneur de faire ça pour les 350 ans de l'Académie des sciences. 350 ans, c'est peu comparé à l'humanité, mais c'est beaucoup comparé à la vie d'un homme.
Oui, tout est relatif. Ouais. Pascal Griset, vous qui êtes historien, là, c'est une date importante, justement, dans l'histoire de ces académies, ce qui va se passer au Louvre mardi.
Tout à fait, parce que les académies avaient une grande tradition d'échanges internationaux jusqu'au 19e siècle. Il y a eu des périodes où c'est devenu beaucoup plus difficile et cette manifestation montre à la fois que cela renaît, que l'Académie des sciences française y joue un rôle important.
Avec en ouverture un discours de François Hollande très attendu sur la politique de recherche. Aline Richard, Romain Garouste, on va s'intéresser avec vous aux yeux des punaises avec un article publié sur le site The Conversation France. Romain Garouste, qu'est-ce qui se passe dans les yeux des punaises ?
Alors, dans les yeux des punaises, il y a beaucoup de choses et surtout, grâce à des méthodes tout à fait nouvelles et intéressantes, nous avons la possibilité d'avoir un nouveau regard à la fois sur les yeux des punaises et sur l'ensemble de l'histoire naturelle grâce à l'utilisation des méthodes 3D.
Donc, vous ne voulez rien nous dire pour l'instant, mais on en saura plus tout à l'heure avec vous. Aline Richard, l'article de Romain Garouste est déjà en ligne ?
Absolument, il est en ligne sur notre site, The Conversation France, depuis ce matin.
Voilà, on peut le lire même avant d'entendre Romain Garouste dans quelques minutes.
Absolument, il suffit de se rendre sur le site et de jeter un coup d'œil.
Comment ça marche, Michel Chevalet ? Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vos mémoires spatiales sont publiées aux éditions Paulsen. Cette formule, c'est votre signature absolue.
C'est ma signature, mais en fait, pour la petite
Est-ce que vous l'avez déjà prononcée ?
Ah ben, j'arrête pas de la prononcer.
Non, maintenant.
Et comment ça marche ? Voilà. Ouais. Non. En fait, c'est Laurent Gérard qui l'a créé. Enfin, c'est Laurent Gérard qui m'en a fait prendre conscience. Ouais. Et qui m'a imité. Il est devenu mon attaché de presse.
Ouais. Et vous allez nous raconter vos moments marquants dans ce parcours incroyable de journaliste cosmique, scientifique. Et ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs, justement, en lisant ces lignes. Ce sera l'occasion, donc, de retrouver toutes ces années, entre autres, à la télévision. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et c'est l'intoxication au mercure qui est à la une de la science aujourd'hui.
Il s'accumule dans la peau quand on le touche, ou dans le sang quand on l'inhale. Et il vous fait perdre vos dents, ou vos cheveux. Ça finit par vous tuer.
Voilà, ce sont les chercheurs d'or californiens que nous entendions il y a un instant et ce ne sont pas les seuls à être exposés au mercure quotidiennement. Il est présent, ce mercure, dans notre vie, tous les jours et peut-être dangereux à très faible dose. Une équipe de Français et d'Américains vient de mettre au point une nouvelle technique d'analyse qui permet justement d'identifier les formes chimiques du mercure dans les cheveux humains et par là même la date et la source de l'exposition. C'est une grande première à laquelle vous participez. Bonjour Jean-Paul Bourdineau.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes professeur de toxicologie environnementale à l'Université de Bordeaux. Quelles sont les sources quotidiennes de mercure auxquelles nous pouvons tous être confrontés alors ?
Donc les trois formes essentielles auxquelles nous sommes exposés proviennent de la consommation de poissons, d'une part, et c'est la forme organique méthylée du mercure qui est la plus toxique et qui est contenue. D'autre part, il y a les amalgames dentaires qui libèrent du mercure sous forme vapeur, du mercure élémentaire, qui est ensuite oxydé par des enzymes dans la bouche. Et enfin, il y a le mercure issu de certains vaccins. Certains vaccins contiennent encore un antibiotique conservateur, le thimerosal, qui est un composé organomercuriel qui lui-même est dangereux. Donc ce sont les trois sources essentielles d'exposition des humains au mercure.
Et quelles sont les doses auxquelles le mercure devient dangereux et les symptômes d'une intoxication alors ?
Alors les doses de méthylmercure qui sont actuellement acceptées ou plutôt rendues réglementaires en termes de limites supérieures, c'est de l'ordre de 0,7 microgrammes par kilo et par semaine. Et ça, c'est la norme de l'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'équivalent du ministère de l'Environnement français aux États-Unis. Alors, il faut savoir que la norme, très curieusement, la norme européenne est à environ 2,5 fois supérieure.
Et quand on mange du poisson qui peut être dangereux, on est capable d'ingurgiter quelle quantité de mercure ?
Alors, tout dépend du poisson que nous ingérons. C'est-à-dire que le mercure est d'autant plus présent dans la chair des poissons que ces poissons sont au sommet de la chaîne alimentaire. Bon, par exemple, dans le thon, il y a des concentrations qui sont de l'ordre de 0,5 jusqu'à 1 microgramme par kilo de thon. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on mange un steak de thon, de 200 grammes, on peut ingérer de l'ordre donc de 100 à 200 microgrammes d'un seul coup. Et donc on dépasse outrageusement la limite hebdomadaire. Donc lorsqu'on mange un steak de thon de 200 grammes, il vaut mieux attendre un bon mois avant d'essayer de
recommencer. Oui.
Exactement.
Jean-Paul Bourdineau, vous publiez donc la démonstration d'une nouvelle méthode de traçage des contaminations grâce à la kératine des cheveux. Expliquez-nous votre démarche exactement.
Oui, alors tout d'abord, je ne suis pas seul. Vous avez vu, dans notre article, il y a quand même beaucoup d'auteurs. Et Alain Manceau, qui est directeur de recherche au CNRS à Grenoble, en est l'artisan principal. Moi je suis spécialiste de toxicologie. Il y a Catherine Nagy aussi, qui est prof à l'Université de l'Illinois, Chicago. Donc, vous voulez savoir en quoi consiste notre méthode, c'est ça ?
Oui, avec le traçage dans les cheveux.
Oui, alors dans les cheveux, notre méthode consiste en fait en la mise au point par les spécialistes du synchrotron de Grenoble, y compris Alain Manceau, d'une ligne de rayons X très puissante dont les caractéristiques spectrales sont assez exceptionnelles et qui permettent en fait, lorsque on place au bout de cette ligne de rayons X des cheveux humains, les rayons X vont interagir avec vont entrer en collision avec les atomes de mercure contenus dans les cheveux et vont nous permettre, après coup, après reconstruction mathématique, de préciser les atomes avec lesquels ce mercure est lié. Et donc, non seulement on peut doser le mercure, mais on va bien au-delà de ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire que on précise en fait la structure moléculaire de ce mercure dans les cheveux. Et c'est le côté génial de l'histoire, c'est qu'on peut faire la distinction entre le mercure issu de la consommation de poissons, celui issu des amalgames, celui issu des vaccins, et également même celui issu du mercure présent dans l'atmosphère et qui peut se déposer tout bêtement sur les cheveux humains, simple contact.
Ouais, une dernière question rapidement,
oui,
Axel.
On manque vraiment de moyens de diagnostiquer et de préciser les causes d'une intoxication aujourd'hui ?
Exactement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que l'on pouvait faire, c'était simplement mesurer la concentration dans les cheveux. Et or, précisément, les cheveux sont considérés comme le révélateur du mercure issu du poisson. Et alors que le mercure issu des amalgames ou des vaccins est considéré comme pouvant être exclusivement dosé dans les urines. Or, nous montrons en fait que ce mercure-là, issu des amalgames et du vaccin, on peut le retrouver dans les cheveux sous une forme structurale différente. Et donc, cela veut dire que, à terme, lorsque cette méthode sera améliorée, miniaturisée, à terme, dans un horizon de 10 à 20 ans, nous espérons tous que nous pourrons rendre disponible au diagnostic médical cette méthodologie.
À l'heure où la phobie autour du mercure est grande, c'est vrai qu'on a besoin en tout cas de méthodes plus précises. Merci beaucoup Jean-Paul Bourdineau pour vos explications autour donc de cette nouvelle technique d'analyse autour du mercure. Merci à vous et Axel, bon week-end.
Bon week-end
à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, nous sommes tous les descendants d'une poignée d'explorateurs africains. Une étude sur des centaines de génomes montre qu'un seul exode d'Afrique a donné naissance à quasiment tous les génomes des humains du reste du monde. Ces humains, accompagnés de quelques néandertaliens, ont quitté l'Afrique il y a 50 000 à 72 000 ans. Étude faite par des généticiens d'Harvard qui suggère également qu'aucun gène ne peut expliquer le progrès culturel et cognitif dans le développement de sapiens il y a environ 50 000 ans. Cette étude ajoute au passage près de 6 millions de paires de bases à la séquence d'ADN du génome humain publiée en 2001. Le premier feu en Europe aurait été allumé par l'homme il y a 800 000 ans. Ce sont des hommes vivant dans le sud de l'Espagne qui auraient été les pionniers du feu de camp en Europe. Selon les chercheurs espagnols, allemands et canadiens, l'identité de cet homme, de ce pionnier du feu, reste encore un mystère. Mais le paléontologue Michael Walker suggère qu'autour d'un million d'années, nos ancêtres ont régulièrement provoqué de petits incendies, mal maîtrisés certes, mais avec quand même de courtes flammes. Et puis 548,8 km/h, c'est le nouveau record de vitesse pour un bolide électrique. Le 19 septembre dernier, la voiture électrique du constructeur français Venturi, propulsée par deux puissants moteurs électriques totalisant une puissance de 3000 chevaux et alimentée par 2 mégawatts de batterie lithium-ionat, a battu son propre record de vitesse sur un lac salé des États-Unis. Ça ne vous a pas échappé, Michel Chevalet ?
Non, on l'attendait.
Record qui n'est pas encore officiellement validé par la Fédération internationale d'automobile, mais c'est pas mal quand même, 548,8 km/h. Allez, le club dans un instant. Was it last year or was it the year before last? It's so hard to tell. Time it gets tangled in the past. Tell me what you need to know. If you want it, if you want it. Tell me what you need to know. Set you free. To sympathize, and I don't expect for you to understand, but I'm hoping that your heart don't fail me yet, hoping that your heart don't fail me now. But if you want it, if you want it, go ahead and spit it out. If you want it, if you want it, come set you free. Set you free. Vortex of Love, The Shoes à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Dans les yeux des punaises, la journée mondiale des sciences et puis les mémoires spatiales d'un journaliste aujourd'hui donc dans notre club de la tête au carré avec mes invités, la physicienne Catherine Bréchignac, l'historien Pascal Griset et les journalistes scientifiques Michel Chevalet et Aline Richard. Le chercheur Romain Garouste est également avec nous avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Commençons par les punaises dentelières. Aline Richard, lorsque vous m'avez proposé ce sujet sur les yeux des punaises et puis les méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller voir dans de drôles d'endroits. J'ai été très intrigué. C'est ce que vous proposez donc sur le site de The Conversation France avec la contribution de Romain Garouste. On rappelle le principe de votre site hein, où l'actualité est traitée via justement ceux qui la font. Hein.
The Conversation France donc, est un site web facilement trouvable avec votre moteur favori. Vient de fêter, cher Mathieu, premier anniversaire le 21 dernier, c'est-à-dire il y a deux jours. Et notre principe est tout simplement, en effet, d'être un site d'information générale qui est exclusivement alimenté par des contributions du monde académique, c'est-à-dire des chercheurs, des universitaires, qui s'expriment soit sur l'actualité, soit sur des choses qui sont de l'ordre de la connaissance, du partage des savoirs, sur une base totalement gratuite. Tout est gratuit. D'ailleurs, les chercheurs ne sont pas rémunérés.
Ils ont l'habitude.
Ils ont l'habitude, peut-être. Les internautes peuvent prendre connaissance comme ils le souhaitent des informations qui les intéressent. Il y a une newsletter auquel on peut s'abonner et on peut d'ailleurs s'y désabonner très très facilement. Donc vous pouvez recevoir chaque jour nos propositions de lecture de chercheurs.
Comment vous avez fait connaissance avec Romain Garouste? Est-ce que Romain Garouste, c'est vous qui êtes allé voir le site en disant voilà, j'ai envie de parler de ça et ça me permettrait de faire un article?
Oui, tout à fait. C'est de cette manière que j'ai pris contact avec la rédaction de The Conversation.
Ouais.
Et donc, Aline m'a tout de suite proposé un certain nombre de sujets qui pourraient faire
On a fait, exemple, un très beau papier sur, justement, cette conservation des insectes dans l'ambre et dans l'ambre du bassin parisien, puisque ça se trouve dans l'Oise et que ça a donc 53 millions d'années.
Romain Garouste, vous êtes chercheur donc à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité. C'est un laboratoire du Muséum National d'Histoire Naturelle et de Sorbonne Université. Votre spécialité, c'est donc d'étudier les insectes et les fossiles d'insectes?
Alors oui, je suis à la fois entomologiste et paléo-entomologiste, c'est-à-dire que j'étudie aussi bien les insectes de l'actuel que les fossiles, et ce qui nous permet d'avoir, je dirais, un recul tout à fait nécessaire pour comprendre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes actuels par l'intermédiaire justement de cette fenêtre dans le passé que nous utilisons par les études donc des fossiles dans l'ambre, mais également des fossiles de compression que l'on trouve dans les roches sédimentaires.
L'ambre, c'est formidable parce que ça conserve parfaitement au fond les organismes.
L'ambre est une substance tout à fait extraordinaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets parce qu'on se focalise beaucoup sur les inclusions, et c'est normal, elles ont beaucoup à nous apporter, mais on se focalise, à mon avis, pas assez sur l'ambre lui-même, sur ce qu'on appelle la matrice, sur ses résines et sur les propriétés de cette résine qui pourrait peut-être, d'ailleurs, dans certains cas particuliers, nous permettre d'atteindre des molécules comme l'ADN.
Ouais. Quels sont les fossiles les plus anciens que vous pouvez étudier, que vous avez eu justement à observer avec vos outils?
Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir décrire le plus ancien fossile d'insecte entier, qui date du Dévonien, c'est-à-dire de plus de 400 millions d'années.
Mais c'était quoi?
Alors, c'est un insecte que l'on a eu du mal à, je dirais, identifié et replacé dans la phylogénie, si vous voulez, dans l'arbre du vivant des insectes, parce qu'il nous manquait un certain nombre de caractères, il n'était pas en très bonne conservation, en fin de compte. Et on pense que c'était un insecte qui était quand même ailé, et on a retrouvé dans une petite mare temporaire de cette période du Dévonien, qui actuellement se situe en Belgique, et qui à l'époque était à notre position sur la planète, eh bien, avec des crustacés, des poissons à plaques, des choses comme ça, eh bien, ce petit insecte s'est probablement noyé et il est à ce jour le seul témoignage de cette forme de vie rare pour cette période, malheureusement. Incroyable. Alors, non pas rare parce que probablement elle était déjà bien, on va dire, installée sur notre planète, mais probablement pour des raisons de conservation des fossiles. Les fossiles sont des événements rares, en fait. La fossilisation est un événement rare. Et ce sont des fenêtres sur le passé, mais des fenêtres quand même relativement étroites. Et on s'emploie à les élargir le plus possible.
Mais ça, c'est un vrai trésor là que vous conservez alors. Si c'est le tout premier insecte entier à votre disposition, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, non ? Il est sous coffre-fort ? Enfin, comment ça se passe ?
Alors, comme il a été trouvé sur le territoire belge avec nos collègues belges, il est conservé en Belgique.
Ouais.
Et oui, il est conservé, je pense, assez précieusement. Et il y a surtout le site de recherche où il a été trouvé, qui est un tout petit site dans un, je dirais, dans un virage, dans une petite campagne, on va dire, belge. Eh bien, c'est une toute petite coin de la route qui a été juste excavée pour trouver ces fossiles extraordinaires.
Ça ressemblait à quoi la Belgique à l'époque ? C'était quoi ? Un milieu tropical ?
Tropical, oui.
Ouais, c'est ça, il faisait très chaud. Il y avait des lagons partout. Il y avait des lagons partout. C'est ça. Aline Richard.
Oui, non, je voulais juste revenir sur l'ambre. En fait, c'est vrai qu'on s'en fait, une idée de quelque chose de très jaune et de très lumineux, mais en fait, pas forcément. Et d'où l'intérêt d'avoir des outils de 3D. C'est une transition idéale pour effectivement investiguer la matière au plus profond d'elle-même.
Tout à fait. Donc, la paléentomologie ou la paléontologie de l'ambre a été très vite, je dirais, la meilleure. A été très intéressé par les méthodes d'investigation 3D, donc que sont la tomographie, que sont les rayons X et toutes les reconstitutions 3D des inclusions, parce qu'une grande partie des ambres sont très peu claires, translucides et sont plutôt opaques.
Ouais.
Donc ça nous a permis de doubler ou de tripler le volume de nos échantillons et de nos gisements accessibles à cette formidable, on va dire, discipline qu'est la paléentomologie, parce que pour nous, elle multiplie complètement et elle révolutionne notre façon de voir les insectes.
Michel Chevalet, vous avez traité ces questions-là, la télévision, tout ce qui est sciences naturelles, c'était moins votre rayon quand même.
Très rarement, finalement, parce que bon, il fait toujours un support image, et puis on dépend toujours à la télé comme à l'armée de l'adjudant de semaine, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire le rédacteur en chef, qui est souvent totalement inculte et refermé à la science, et donc il fait comme je disais, oh, tu sais, on a découvert un insecte 400 millions d'années le Dévonien, je m'en fous, voilà la réponse.
Et c'est sûr qu'il faut des images, et aujourd'hui finalement on les a aussi, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'avec ces nouvelles techniques en 3D, c'est toute l'histoire naturelle qui est complètement bouleversée au fond.
Alors oui, en fait on estime que c'est pour nous une manière de revisiter l'histoire naturelle, alors à la fois au niveau scientifique, donc ça nous donne vraiment de nouveaux outils, c'est pour nous même ce qu'on appelle un nouveau paradigme technologique, on a vraiment accès à des informations que l'on ne pouvait pas imaginer avoir il y a quelques années encore. Et à la fois, c'est un formidable support de communication et de diffusion des connaissances.
Ouais.
Donc en fait, je dirais qu'on a tout à y gagner. Et on
peut créer
deux tableaux.
De nouveaux musées aujourd'hui, qui changent beaucoup de cette image un peu poussiéreuse du cabinet de curiosité qui a perduré pendant très longtemps. Et maintenant, on est vraiment passé dans une autre ère.
Tout à fait. Donc au muséum, on est en train de réfléchir, puisqu'on a ce volet justement de diffusion des connaissances très important, qui fait partie de notre travail, en fait. Et donc, on est en train d'imaginer actuellement ce que l'on pourrait appeler un cabinet de curiosité 3D, accessible sur Internet, gratuit, où on montre tous nos résultats scientifiques et où on explique comment se fait cette science et cette nouvelle histoire naturelle numérique.
Alors, l'œil de la punaise, quand même, raconte-nous un petit peu. Il y a des choses à dire là-dessus, non ?
Alors, l'œil de la punaise, oui. En fait, c'est une découverte fortuite, j'étais en train de faire de l'imagerie pour un ouvrage sur les punaises et je me suis aperçu que certaines de ces punaises, quand je les passais en microscopie électronique, elles avaient les yeux qui brillaient. Et ça, c'était quand même peu banal, jamais vu jusqu'à maintenant. Et en fait, on s'est aperçu que certaines catégories de punaises, une petite famille pour l'instant, enfin une petite famille, vous savez, pour les insectes, une petite, c'est quelques dizaines, voire 50 000.
C'est la dentelière, là.
Les punaises dentelières. Oui. Donc 50 000 espèces dans le monde, presque. On s'est aperçu que donc elles brillaient dans la nuit, ça veut dire qu'elles avaient des propriétés probablement physiques particulières. Et on s'est aperçu que ces yeux sont minéralisés.
Ah oui.
Voilà, et c'est unique chez les insectes pour l'instant.
Donc c'est le premier spécimen que vous découvrez.
Tout à fait.
Avoir donc cette minéralisation dans
l'œil. On est en train d'explorer à la fois la biodiversité de cette famille, de ce groupe d'insectes, pour comprendre comment se répartit ce phénomène. Et on est en train d'explorer avec mes collègues du muséum, qui sont des spécialistes de la géochimie, et également de la chimie vraiment de la matière, et de la physique de la matière aussi. On est en train d'explorer, grâce aux outils synchrotrons notamment, et tous les outils analytiques de microscopie, on va dire accessibles de nos jours, on est en train d'explorer ce phénomène pour essayer de le comprendre.
C'est le premier insecte que vous découvrez avec ce phénomène de minéralisation, alors c'est ça ?
Oui, parce que en fait, on a toujours considéré que même si quelque part les insectes sont peut-être issus des crustacés, les crustacés, vous savez, on sait tous quand on mange des crustacés, on voit bien que la carapace, elle est un peu quand même, elle est dure, elle est pas facile à casser. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de minéralisation. Les insectes, non, il n'y a pas de minéralisation, c'est que de la matière organique, ils sont beaucoup plus faciles en général à casser. Mais on s'est aperçu que dans certains cas, il y avait quelques métaux qui étaient insérés comme ça dans le, dans cette cuticule pour renforcer certaines fonctions. Mais pas de carbonate, pas de minéralisation type crustacé. Mmh. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui vient de nos, des ancêtres crustacés.
C'est ça, et qui aurait divergé
qui revient chez nos insectes par l'intermédiaire de ces punaises. Après, on peut se dire qu'on n'a pas exploré encore l'ensemble de la biodiversité des insectes par cette méthode. Donc peut-être, et c'est, je m'y emploie en partie, pour essayer de voir si on ne trouve pas ce phénomène dans d'autres types d'organismes.
Michel Chevalet.
Juste une remarque de journaliste. Je me mets dans la plage, je vais voir mon rédacteur en chef, et je lui dis, alors figure-toi,
on a trouvé
les punaises, elles ont les yeux minéralisés. Il va me dire, mais ce en quoi c'est important, c'est ça, pour pouvoir vendre l'article. C'est sans doute très important pour vous, mais je n'arrive pas moi-même à me rendre compte.
Bah, je pense qu'il y a quand même deux choses. Il y a, premièrement, la science pour la connaissance. Et alors ça, en général, vous avez raison, ça intéresse très peu de monde, sauf nous, parce que moi, je suis passionnée par ce qu'ils viennent raconter. Et pourtant, je suis physicienne, je travaille pas du tout dans ce domaine-là. Puis deuxièmement, il y a la science, effectivement, utile à la société. Et je félicite Mathieu, parce qu'en fait, nous avons eu deux exemples de ces deux sciences. La première sur le mercure et justement sur la santé des hommes et comment la science peut faire progresser dans cette idée d'avancer sur la santé, et deuxièmement sur les histoires des punaises avec les yeux minéralisés. Bon,
c'est extrêmement intéressant. Réponse à la question de Michel Chevalet.
Si vous penchez sur le problème, il y a un point d'interrogation, et je le conçois.
Oui, merci pour votre intervention.
Ah, vous êtes un très bon avocat avec Catherine.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. En fait,
et heureusement que vous avez un sac contre en France aussi. Hein.
Vous avez raison. On a même deux.
Accélérateur de particules, hein, pour traduire.
Alors, il y a deux choses. On a effectivement besoin d'avancer dans cette connaissance pour pouvoir mieux asseoir toutes les applications qui seront possibles un jour. Effectivement, ça c'est l'argument classique pour expliquer la science fondamentale, bien entendu. Mais au-delà, on a aussi besoin dans la recherche d'avoir une certaine autonomie pour pouvoir tirer des pelotes de fil. En fait, on trouve comme ça, par hasard, dans nos recherches, certains phénomènes qui sont a priori donc inconnus, qui a priori au départ n'ont pas d'application connue, mais en fait on peut s'apercevoir très rapidement qu'il y en a. Et en fait, nous, dans cette recherche particulière, on est en train d'envisager un rapprochement avec des équipes qui font ce qu'on appelle du biomimétisme, et il y aurait peut-être des applications.
Quel genre ? Très très vite ? Dans quel domaine on peut le savoir
déjà ?
On est en train
d'y réfléchir et ça me serait difficile de vous en parler maintenant.
Bon, donc il faudra vous retrouver avec votre punaise dentelière un petit peu plus tard. Et puis en attendant, lire cet article sur theconversation.com. Vous restez avec nous dans un instant.
.fr.
C'est .fr ?
Theconversation.fr.
Ben voilà, vous avez sorti de la tête au carré, vous serez bien dirigé, en tout cas mieux qu'avec moi. Et on se retrouve dans un instant pour la Journée mondiale des sciences.
Que tu me eaux bleu marine. Il marche en regardant ses pieds. C'est un garçon dérangé. La nuit jamais il ne dort. Dans la journée il fait le mort. Il aime trop l'obscurité. C'est un garçon dérangé. Partout étranger. C'est un garçon dérangé. Partout étranger. C'est un garçon dérangé.
Et c'est l'escope à l'instant avec Dérangé.
La tête au carré. Le club.
Pleure, gros mouvement, pleure. Et relâchez bien le bassin. Alors, on relâche, on relâche. Quand on chante, c'est tout le corps qui résonne, des orteils jusqu'aux périnées.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Et oui, car nous accouchons nos invités également dans cette émission. Mardi prochain, c'est la Journée mondiale des sciences. On en parle avec vous, Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, et Pascal Griset, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne et directeur de l'Institut des sciences de la communication. L'Académie des sciences, donc 350 ans cette année. Grand rendez-vous donc mardi à l'auditorium du Louvre, Catherine Bréchignac. Et puis vous êtes à Marseille aussi, hein, c'est ça? Vous allez
oui,
faire la tournée de l'Académie, c'est ça, au MUCEM?
Et nous sommes à Marseille. Au Louvre, nous accueillons le président de la République et à Marseille, nous accueillons le prince Albert.
Et le public.
Et le public, naturellement.
Qui pourra venir vous voir. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces académiciens du monde entier, exactement?
Alors, tous ces académiciens du monde entier sont là pour symboliser l'importance, montrer l'importance de la science, comme nous venons de le voir. Et en fait, nous avons donc décidé tous ensemble d'écrire un manifeste qui n'est pas un manifeste polémique, comme on a l'habitude de voir, ni sur les structures de la recherche, ni tout ça, mais surtout sur les valeurs de la science. Et qu'est-ce que ça apporte? Et essayer de se projeter dans le futur, parce que comme je vous l'ai dit, 350 ans, c'est peu devant l'humanité et devant les punaises que nous venons de voir, mais c'est quand même beaucoup devant la vie des hommes, et donc c'est important. Deuxièmement, l'après-midi, qui sera tout aussi intéressante que le matin. Le matin, nous aurons bien sûr le discours du président de la République. Et l'après-midi, nous aurons quatre défis que nous avons choisis ensemble, qui sont santé et démographie, parce que c'est des problèmes clés pour la société aujourd'hui, numérique, robotique et emploi, environnement, ressources et recyclage. Je tiens beaucoup au mot recyclage, parce que si on ne recycle pas, on va finir par mourir sous notre tonne de déchets. Et puis ensuite, l'univers, quels outils pour le comprendre.
Ça sert à quoi une académie aujourd'hui pour la société?
Alors justement, l'académie, pour la société, a plusieurs rôles. Elle a tout d'abord le rôle de préserver la démarche scientifique, c'est-à-dire que nous devons réfléchir à l'intégrité de la science. Actuellement, avec tous les outils que nous avons, on peut partir dans tous les sens. Vous avez de l'information non triée. C'est pour ça que votre site The Conversation est quand même extrêmement intéressant, parce qu'au fond, il y a quand même un tri qui se fait. Quand ce que vous regardez sur Internet, vous avez des choses non triées. Ouais. C'est toujours difficile de faire le choix parmi les choses qui ne sont pas triées. Et donc, nous devons préserver cette intégrité de la science et surtout comment se construit le savoir. Ça, c'est un de nos rôles. L'autre rôle, c'est de s'ouvrir à la société, de ne pas rester avec une académie un peu docte et surtout...
Vous avez du mal à sortir de cette image-là quand même, non? Auprès du public.
Je dois dire que ça s'améliore.
Bien au chaud sous votre coupole.
Oui, non, mais ça s'améliore quand même beaucoup. Et justement, vous avez des pays, par exemple, comme les États-Unis, où la National Academy of Sciences des États-Unis est extrêmement ouverte. Donc, le fait d'être tous ensemble, et que ce soit ici à Paris, c'est important. Donc, on s'ouvre de plus en plus quand même. On a des débats vraiment avec la société. Puis, notre troisième rôle, c'est d'éclairer le politique, qui est très souvent sous la pression sociétale. Et du coup, d'essayer de lui redonner, de donner, comme diraient certains, le temps au temps.
Michel Chevalier.
Vous écoutez, est-ce que les politiques vous écoutent? J'ai bien l'impression que malheureusement vous prêchez dans le désert.
Non, les politiques entendent ce que nous disons, ensuite ils font ce qu'ils en veulent, mais nous n'avons... Non, il ne faut pas mélanger les rôles. Le rôle d'un scientifique, c'est de faire de la science et de dire ce qui existe et ce qu'il y a et où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment c'est... Voilà. Le rôle du politique, c'est de prendre des décisions. Donc s'ils prennent les mauvaises décisions, j'y peux rien.
Et c'est tout. Voilà, vous terminez comme ça.
Oui.
Bon, alors, François Hollande, justement, mardi matin, il y a un discours important là qui est attendu quand même, parce qu'il va nous parler un peu de ses projets
bien
en matière de recherche.
Nous l'attendons.
Ouais. Vous avez déjà des informations sur ce qui sera distillé à l'occasion de ce discours ou pas ?
Non, je n'ai pas d'informations. Ouais.
Michel Chevalet, ça vous intéresse, vous, la politique de recherche, hein, justement, tout ce qui concerne vraiment les financements
Enfin, quand on exerce, ça fait 40-45 ans que je fais ce métier, j'étais enseignant avant, hein, vous savez, j'étais prof de maths.
Maths et physique, ouais.
Oui, j'étais prof de maths. Moi. Ben, j'ai eu Laurent Voulzy comme élève, c'est marrant.
Oui, pareil. Ouais,
Patrice
ouais.
Duhamel aussi. Ouais. Bon, je suis pas très fier, hein, ouais. au point de vue maths. C'était pas très bon. Ouais. Mais enfin, ils ont bien réussi. Ouais.
Hein. Revenez sur le chemin de ma question.
Non,
je sens que vous êtes en train de partir
c'est important,
là déjà.
Non, vous êtes obligé. C'est indissociable, si vous voulez. Dans la mesure où les scientifiques portent, mettons, un jugement, disent voilà. Voilà, si on fait ça, voilà où on va dans le mur. Et puis de l'autre côté, il y a, pour des raisons électoralistes, politiques ou financières, malheureusement, le choix souvent n'est pas le meilleur.
Donc, pour montrer, la science au fond intéresse très peu de gens. La science, telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. Mais en revanche, ce qui intéresse beaucoup la société, c'est la technologie et ce que nous faisons de la science. Et ça, pour qu'une technologie puisse être acceptée par la société, il faut vraiment une acceptation de la société.
Donc vous dites plutôt la science appliquée intéresse les gens et la recherche fondamentale n'intéresse pas les gens.
La science qui intéresse, elle intéresse les gens, mais par curiosité, elle intéresse les gens, mais elle ne.
Pourtant, c'est fascinant.
C'est fascinant.
Sauf, elle a raison, mais sur certains domaines. Et là, même les Braïcs ou autres, et Reeves, tout de même, c'était vraiment la science pure.
Oui, parce que cette science-là, elle fait rêver. Absolument.
Mais c'est une façon de la raconter aussi.
Bien sûr, c'est une façon de la raconter voilà.
Et ça fait toute la différence.
On ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné.
Rajeunir les effectifs, féminiser l'académie, ça c'est un des grands enjeux. Ça fait des décennies déjà que vous êtes sur l'ouvrage.
Oui, ça fait des décennies.
On en est où là aujourd'hui ? Combien de femmes à l'Académie des sciences, Catherine Bréchignac ?
Je dirais 10%, un peu plus.
Ouais. C'est pas beaucoup quand même. Hein.
Non, c'est pas beaucoup, mais de toute façon, le vivier n'est pas là et nous ne voulons pas...
Faire quoi, de la discrimination positive ?
Voilà.
Bon, donc. Très bien. Pascal Griset, 350 ans d'Académie des sciences, une compagnie en son siècle, ça c'est un livre que vous avez publié aux éditions du Cherche Midi, donc c'est 1666, l'année de la création, Louis XIV et Colbert, et c'est l'année aussi, vous le racontez, où Molière se fait interdire la création de Tartuffe. Il n'y a aucun rapport d'ailleurs entre les deux, hein. Mais qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'on crée cette Académie ? Quelle est la volonté exactement et la volonté politique aussi du roi à ce moment-là ?
La volonté du pouvoir à cette époque est de favoriser le développement des sciences. Hein. On présente le colbertisme souvent comme quelque chose de vieux, de poussiéreux. Le colbertisme est à bien des égards un instrument de libéralisation, de liberté, notamment pour les scientifiques, pour leur donner des moyens. Et on parlait de financement de la recherche. Il n'y a aucun financement d'une quelconque recherche à cette époque et ce sont les premiers moyens par protection royale qui, à travers l'Académie, vont permettre aux premiers savants, aux premiers scientifiques de travailler. Donc c'est un tournant important qui s'était passé quelques temps auparavant déjà en Angleterre et qui fait que la France est vraiment à la pointe de cette scientifisation, dirais-je, de la réflexion dans la société.
C'est toute la façon de travailler aussi, toute la méthode scientifique qui va évoluer à partir de ces premières décennies.
Alors la méthode scientifique va évoluer surtout à partir du 18e siècle principalement et encore au 19e siècle. C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode scientifique à proprement parler auparavant.
Si, quand même, Galilée a été le premier à vraiment montrer la comparaison entre la théorie et l'expérience, et la comparaison théorie-expérience, avec la chute des corps. Ça a été c'est un peu notre père à tous au niveau de la démarche scientifique. Alors après, vous avez parfaitement raison. Ça s'est terriblement amplifié.
C'était des initiatives.
C'est quoi la méthode scientifique, ça veut dire quoi concrètement ?
Donc la méthode scientifique par l'expérimentation, par la preuve, et puis ensuite, vous demandiez tout à l'heure à quoi sert l'Académie des sciences, par la diffusion, par la publication ou par la parole. L'Académie des sciences est un lieu de parole. Au XIXe siècle, l'Académie des sciences est un lieu où le public peut venir, peut échanger très librement avec les savants. Et donc, on...
C'est plus le cas aujourd'hui.
Non.
Ça a bien changé.
Les deux, on a les sourcils qui se soulèvent. Ouais. J'avoue que...
Le public n'entre pas à l'Académie des sciences.
Ça a été limité. Si nous avons des séances publiques.
Oui, mais il faut être invité.
Vous n'avez pas... Voilà.
Ça a été limité
à la fin. On frappe pas la porte comme ça. Ouais, ouais.
Ça a été limité à partir de la fin du 19e siècle parce qu'il y avait des sortes d'abus, c'est-à-dire que les gens venaient et que le débat n'était plus contrôlable. Donc il y a eu une forme d'intérêt pour la science qui a fait qu'il a fallu limiter ce genre de choses. Donc c'est la confrontation au jugement des autres, la science également.
Ouais. À la Révolution française, qu'est-ce qui se passe justement? Quelle est la position de l'Académie des sciences dans cette France tourmentée et...
L'Académie des sciences fait partie de ces institutions qui ont été détruites par la Révolution française. Les savants ont eu des trajectoires extrêmement personnelles. On en connaît quelques-uns qui se sont engagés pour soutenir le combat des armées révolutionnaires en cherchant des procédés, en appuyant la production de certains produits chimiques. D'ailleurs, cet engagement des scientifiques français à travers l'Académie des sciences, on le retrouvera au cours de la guerre de 1870, au cours de la Première Guerre mondiale. En revanche, et là c'est la grande éclipse de l'Académie des sciences au cours du XXe siècle, au cours de la Seconde Guerre mondiale, on voit que l'Académie des sciences a été, dirons-nous, au mieux
jusque dans les années 70. Hein, ça a été vraiment une longue traversée du désert.
Alors c'est vrai, c'est jusqu'aux années 1970. Il s'est passé beaucoup de choses aussi au cours de cette époque. L'Académie des sciences a eu un rôle de financement fort de la recherche en France à la fin du XIXe siècle. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. Et donc se crée principalement entre les deux guerres, d'autres formes de financement, et puis principalement, on arrive à la création du CNRS. Le fait est que le financement par l'État de la recherche a entraîné la création d'autres institutions et que le rôle direct de l'Académie des sciences est devenu moins important et qu'il y a eu indéniablement une forme de marginalisation. Et puis au cours des années 70, il y a un retour d'un rôle plus, je dirais, opérationnel, entre guillemets, de l'Académie des sciences. Le président Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, demande un rapport à l'Académie des sciences. Ça n'était plus arrivé depuis des dizaines d'années. Et puis il y a un processus de réforme que vous avez évoqué tout à l'heure, de rajeunissement, qui était un point vraiment essentiel. Moyenne d'âge.
C'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Académie des sciences?
Alors la moyenne d'âge n'a pas grand sens puisque...
ça dit des choses.
Non, ce qui est important, c'est pour expliquer les choses en tant qu'historien plus précisément, c'est qu'il y a eu la décision de réserver à la moitié des nouveaux élus des postes à moins de 55 ans. Ce qui fait que vous avez des jeunes qui arrivent. C'est ce qui fait que vous avez des gens qui peuvent avoir un certain âge et rester actifs, mais qu'il y a eu un fort rajeunissement qu'une moyenne finalement ne traduirait pas. Il faudrait projeter dans les années à venir l'évolution de la démographie.
Voilà, donc 350e anniversaire, beaucoup de festivités tout au long de l'année. Il faut d'ailleurs aller les voir sur le site internet. Vous allez me faire un duplex avec la Station Spatiale Internationale en décembre, avec Thomas Pesquet quand il sera arrivé là-haut.
Et puis on a aussi, en interaction avec le public, on a fait le mot des académiciens où chaque académicien explique un mot.
Ce sont des vidéos qu'on peut voir avec la chaîne parlementaire.
Sur la chaîne parlementaire. Et je dois dire que nous sommes heureux d'avoir celle qui est de notre confrère Jean-Christophe Yocoz.
Qui est décédé, mathématicien, qui est décédé il y a quelques temps et qui avait choisi le chaos, pour en parler. Et vous, c'est Nano, Catherine Vachignac, que vous avez choisi. Pascal Griset, pour terminer.
C'est important de dire que maintenant, les scientifiques n'hésitent plus à, entre guillemets, communiquer également. Ils publiaient, ils diffusaient. La communication, c'était considéré comme quelque chose de pas bien, pas très digne.
Et on peut le voir avec ces vidéos, justement.
Et l'évolution de l'Académie des sciences, notamment, a montré que, et des grandes institutions de recherche, qu'on crée des départements de communication et les multiples activités de l'Académie des sciences vers les jeunes, différents milieux, montrent que ce rapport à la communication a vraiment évolué, que c'est une très belle chose.
Voilà, ces vidéos, le mot des académiciens en ligne sur le site de l'Académie des sciences. Et puis, il y a la lettre également qui paraît pour les 350 ans, où vous parlez justement abondamment de la connaissance, Catherine Vachignac, puisque vous signez un article sur la marche de la connaissance. Toutes les infos sont en lien, ainsi que cet ouvrage, Une compagnie en son siècle. C'est aux éditions du Cherche Midi. Michel Chevalet, comment ça marche? Mémoire spatiale d'un journaliste publié aux éditions Paulsen. Autant vous dire, je suis très heureux de vous accueillir parce que je vous ai vu pendant toute mon enfance à la télévision et puis encore aujourd'hui, puisque vous êtes consultant scientifique pour e-télévision. Et donc cette formule comment ça marche, rendue célèbre par Laurent Gérard, vous le disiez tout à l'heure. La preuve tout de suite.
un dossier passionnant, comment vivre avec les ados. Pour le compléter, nous avons demandé davantage d'explications à Michel Chevalet.
Un adolescent, comment ça marche? D'abord, l'horloge interne chez l'adolescent, elle est complètement déglinguée, avec 2 ou 3 heures de retard. Résultat, la sécrétion de mélatonine ne se déclenche pas avant 11h minuit et l'adolescent ne se couche pas avant 2h du mat. Au petit déjeuner, vous avez devant vous une épave boutonneuse qui en plus vous fait la gueule. La croissance de l'adolescent révèle du monstrueux, jusqu'à 15 cm par année, les mains et les pieds grandissant. En premier, suivent les jambes, les avant-bras, puis les cuisses, et en dernier, le tronc. C'est à la fois Alien, Hulk et la nuit du loup-garou. Voilà comment ça marche, un adolescent. Alors, si vous en avez à la maison, bon courage.
Voilà, c'est alors, comme ça, c'est non, comme ça que vous auriez pu le raconter.
Non, bien sûr, mais c'est un très 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 bon ami. Mais le problème, c'est que malheureusement, Laurent souvent me fait dire des choses sous la ligne de flottaison.
Oui, bien sûr. Les pires horreurs dans sa bouche. Comment ça marche? Et puis on découvre justement que vous êtes un véritable enfant de l'espace, parce qu'en fait, vous êtes né au bon moment et vous avez vécu toutes les évolutions et toutes les grandes étapes de la conquête.
Vous avez raison. C'est-à-dire que
Spoutnik, vous aviez 18 ans, c'est ça?
Comment?
Spoutnik.
Oui.
Vous aviez 18 ans.
Ben, j'avais 18 ans, oui. Je préparais les arts et métiers, oui, j'étais en terminale, voilà, c'est ça.
57, avec, donc ça a commencé 57. Comme ça. Et tout au long de votre
mais
vie,
les gens comprenaient rien. Enfin,
vous avez vécu ces grandes étapes.
Juste une anecdote pour vous montrer la diffusion de la culture technique à la rédaction d'ITélé, donc avec le présentateur. On discutait entre copains, et puis il me dit, mais... Alors il m'a dit, attends, j'ai bien compris, mais alors le satellite, bon, il a un moteur, faut qu'il continue à le faire avancer. Ah bon? Je dis, mais non, il n'y a pas de moteur. Le seul moteur, c'est la gravitation, c'est tout. Ouais. Mais vous voyez, c'est toujours pas les concepts de base. La gravitation n'est pas rentrée. Il me dit, mais il était bien. Alors, en apesanteur, je comprends pas pourquoi il flotte. Mais je dis, non, il tombe. Là, il n'y a pas de pesanteur. Mais si, elle est toujours là. Mais sinon il ne pourrait pas être satellisé. Vous voyez, les concepts de base ne sont toujours pas compris.
Et comment vous expliquez ça, alors, la difficulté, justement, d'intégrer ces choses essentielles à la marge de la nature, quand même?
C'est ça. Mais c'est des difficultés. Moi, j'enseignais les mathématiques et... Et quand je me suis trop confronté, donc quand vous touchez à la relativité ou choses comme ça, vous sortez des concepts sensibles, perceptibles par notre expérience personnelle.
Ouais.
Et donc, moi, j'avais un critère, on va revenir juste sur l'enseignement. Vous voyez, jusqu'à la troisième, ça allait, c'était pragmatique, on faisait des courbes, deux axes, XY, ça allait. Quand vous arriviez en seconde, il y avait une tranche d'élèves qui ne pouvaient pas faire le saut de la troisième dimension, c'est-à-dire de mettre un axe Z. Alors bien sûr, quand vous parlez de la quatrième dimension, là, tout le monde est paumé. Vous voyez, il y a des graduations dans l'acquisition de concepts. Et je dis, pour le grand public, moi, mon interface, c'est pas les scientifiques, ils en savent beaucoup plus que moi. Mais je suis qu'une éponge qui vient saisir les informations. Mais mon rôle, c'est de sensibiliser le grand public et de dire, voilà... Qu'est-ce qu'il sait de quelque chose? Quel terme je vais employer?
Et puis de lui raconter, parce que vous êtes un formidable raconteur d'histoires.
Le bémard de la science, quoi.
Vous avez cette énergie quoi, qui est là et qui fait qu'on vous écoute.
Voilà, moi je fais mienne cette phrase, c'est « On ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné ». Vous aussi, vous assistez à des conférences, mais au bout de 5 minutes, vous dites, mais il me fait chier, ce mec est emmerdant. Bah, entre nous, on ne dit pas publiquement, mais là, il n'y a pas de journaliste ici, on peut le dire. J'ai pris pour moi, je l'ai mise dans le livre, cette phrase, il paraît que c'est d'Einstein, mais c'est mon copain Bertrand Piccard qui m'a dit, qui l'a fait. Et elle est très belle, elle résume toute la connaissance. Piccard dit, pour changer la société, il faut changer les hommes. Et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et qu'est-ce que font les scientifiques? Qu'est-ce qu'a fait un Braille? Qu'est-ce que font un Reeves? C'est formidable. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma carrière, parce que j'arrive au bout de la carrière? C'est donner envie de comprendre, donner envie d'acquérir les connaissances dans le milieu. Je leur donne des clés pour comprendre, mais après, ils ont toutes les sources d'informations.
Ouais. Alors, vos clés, ça a été les maquettes aussi, pendant longtemps. Et alors on découvre que vraiment, c'est une passion d'enfant, qu'on a retrouvée tout au long de votre vie à la télévision.
Oui, mais j'appelle ça la science des maquettes. Mais pourquoi? Mais revenez en arrière, vous suciez votre pouce, mon cher Mathieu, et vous regardiez Dorothée ou autre, j'imagine.
Je dois le confesser, ouais.
Eh bien, comment expliquer quelque chose de façon visuelle à la télévision en 1 minute et demie? Parce que vous savez pas bien que la science, on était coincé entre le sport, les infos gênées, le crime du coin, voilà. Eh bien,
j'ai utilisé, il n'y avait pas de 3D, il n'y avait pas d'ordinateur. Ouais. On faisait des dessins sur papier. Et ben j'ai dit, on va utiliser les maquettes, parce qu'à la SFP à l'époque, il y avait de fabuleux maquettes. Et
ouais, le gars, ils allaient vite,
avec un tuyau de descente de water. Ben, c'est du 80 en ouais. PVC, vous savez ce que c'est. Et ben le gars, il vous faisait le corps de
Et vous le présentiez le soir aux 20h. Hein? Et vous le présentez le soir aux 20h.
Voilà, ça allait puis, très vite. Voilà. Et puis c'était un jeu. Ouais. C'est la télé, ça bougeait, c'était un jeu.
On va écouter un extrait d'une de vos interventions, c'était en 1979, autour de la télématique, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Le Minitel, non ?
Alors, ben voilà, voilà l'extrait tout de suite.
Vous imaginez que nous sommes dans un bureau de poste. Voilà, en face de madame, il y a un terminal d'ordinateur. Elle procède en direct avec l'ordinateur à les opérations, c'est-à-dire qu'en ce moment, je lui ai demandé sur mon livret de caisse d'épargne d'effectuer un retrait de 2000 francs. Et vous voyez que sur mon livret, il y a en bas une piste magnétique sur laquelle sont portés des renseignements et notamment la position de mon compte. Vous continuez, madame. Elle interroge donc l'ordinateur. L'ordinateur dit que l'on peut effectuer ce retrait. Et regardez bien la suite, extrêmement intéressante. Le document est avalé et immédiatement, en direct, eh bien, mon compte, en quelque sorte, est mis à jour. Figure ici. Je vous signale qu'à la fin du mois, l'opération démarrera à Paris et qu'en 1985, 10 000 bureaux de poste seront ainsi équipés. Voilà donc la grande révolution de la télématique dans le domaine des PTT. Vous voyez, une révolution qui avance à grands pas.
Il fallait faire avec quelque chose de concret.
Ouais.
Si j'ai une grande théorie sur la mathématique, sur la télématique, où on va pouvoir transmettre des données par ordinateur.
Donc là, vous allez à la poste hein, directement.
Bien sûr.
Exactement, 1979. Michel Chevalet, vous avez présenté beaucoup. Il y avait à l'époque aussi beaucoup d'émissions de télévision consacrées à la science. Vous avez vécu une belle époque.
Il y en avait beaucoup plus. Moi, curieusement, je n'ai fait toujours que de l'information. Je n'ai jamais fait de magazine. Et c'est-à-dire que c'est le revers de la médaille, c'est que je me suis tellement formaté l'esprit et je m'exprime que par des propositions indépendantes, vous voyez, c'est facile à couper au montage. Et je suis incapable, moi j'ai débuté dans la presse écrite au journal La Croix, j'ai fait, mon cher, le journal La Croix, Science et Avenir.
Oui, c'est vrai.
J'ai travaillé à Science et Avenir, qui m'a appris à vraiment à rédiger, mais j'ai un mal inouï. J'ai mis 6 mois à écrire ce livre.
Ouais.
Parce que, quand j'ai fait une page, moi, je pense que j'ai tout dit. Parce que je suis habitué à m'exprimer en 1 minute et demie. C'est tout.
Et voilà. Donc là, vous avez eu plus de 200 pages pour le faire. Le décollage de la première fusée Ariane. Ça aussi, c'est quand même une époque incroyable. Parce que 79, à l'époque, on regardait ça à la télévision. C'est-à-dire que ça nous intéressait. Aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse au décollage de la fusée.
Vous avez raison. Le problème d'Ariane, tout le monde s'en foutait. Jusque j'ai compris le monde politique. Tout le monde s'en foutait. Le problème, c'est que les gens avaient eu un spectacle grand public parfait, qui était on a marché sur la Lune. Derrière ça, tout était fade. Bon, il y a eu Skylab, puis après les Américains, on attendait la navette. Hein, on était dans les années 70-71, on a décidé de faire une fusée. Mais une fusée européenne, après les déboires qu'on a connus, c'était un gros pétard qui avait 25 ans de retard. Ouais. Comment voulez-vous passionner le grand public pour une grosse fusée qui volontairement, je dis bien les choix qui avaient été faits, ils ont été très bons, de faire un engin simple et fiable. Et non pas de faire un engin pour aller sur la Lune.
Bah, qui a fait ses preuves quand même. Hein.
Bien sûr, parce qu'il y a eu la volonté tout de même de gens remarquables pour ça. Alors, je dirais, c'était très difficile pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été faire le Zouave à Kourou en Guyane. C'était pas très facile là-bas. Vous savez, les journalistes étaient très 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 mal vus. On n'avait pas. Il y avait toujours cette maladie du secret. Les gens du CNES, la direction du CNES était issue souvent de la recherche militaire. Il y avait, Aline le sent bien. Mais moi, j'étais très mal vu pendant très longtemps à Kourou en Guyane. Bon, après, j'étais chez moi.
Ouais.
Mais il fallait que je dise à la mère Michu, pour moi c'est ce que disait Zitrone, je lui dise, regardez, vous avez une belle fusée, elle est géniale, c'est formidable, voilà ce qui va se passer. Et ben on rame, hein, quand vous avez une navette, c'est un spectacle. Quand vous avez une Ariane, au début, c'est très difficile.
Alors, c'est un livre de rencontre également. Il nous reste à peine 1 minute, donc vous connaissez la valeur du temps. Michel Chevalet, il y a cet astrophysicien malien qui a envoyé un robot sur Mars, hein, vous racontez son aventure.
Ah, c'est un grand ami,
c'est une très belle histoire, ça
Che
aussi.
Che Guevara, oui, que je connaissais. Et Che a fait son robot, le premier qui a roulé sur Mars. Et puis surtout, il a ouvert un site pour avoir les images de Mars en direct, et surtout l'histoire de Tchèque qui était devenu un ami. Moi, je passais mes vacances chez lui à Pasadena. Il se trimballait au Sénégal, il allait au Mali avec un robot, il faisait rouler son robot dans la poussière, dans le sable, sur les gens du village autour de lui. Et il essaie, et ces mômes étaient fascinés de se dire, mais c'est un extraterrestre. Ouais. Il a son jouet qui roule en ce moment sur Mars.
Ça s'appelle Comment ça marche, Michel Chevalet. Ce sont vos mémoires spatiales d'un journaliste qui vont rappeler également plein de souvenirs parce qu'on a tous vécu, hein, justement, ces grandes conquêtes spatiales. C'est aux éditions Paulsen. Merci beaucoup d'être passé par notre club aujourd'hui. Et puis, une compagnie en son siècle, Le Cherche Midi, et le site theconversation.com. Ça marche quand même, Aline Richard. On accède directement à votre site.
Bon, d'accord. Alors, .com.
Allez, bon week-end.